Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Jean-François. Bonsoir à vous, Jean-François.
Bonsoir, Sabine.
Et bienvenue.
Vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
C'est bien, je ne devrais pas élever la... Parce que...
Ah.
Il se souvient.
Allô ?
Ah non, ça va aller, ça va aller. Ah,
vous m'avez fait peur, parce que j'avais, un mot, j'avais le forfait voyelle, mais pas consonne. J'avais un mot sur deux.
Non, c'est parce que, comme je suis non-voyant, j'ai un téléphone avec une synthèse vocale, et elle s'est mise à parler au moment où...
Ah, effectivement, on est mal parti là. Jean-François ? Allô, allô ? Bon, ça a raccroché, me dit-on en régie. Écoutez, on est obligé de passer un peu de musique. On essaie de se reconnecter avec Jean-François avec un téléphone qui fonctionne. Alors, deuxième essai. Jean-François, êtes-vous là ?
Oui, c'est le bon cette fois-ci.
Ah, ben c'est parfait. La liaison m'a
l'air... Toutes mes excuses, mais je suis non-voyant. J'ai une synthèse vocale dans mon téléphone. Elle s'est mise à parler en même temps que vous. Et quand j'ai voulu la couper, ça a raccroché.
Je vous en prie, vous êtes tout pardonné. Je vous écoute, Jean-François.
Alors, on s'est déjà parlé. Hein. Je suis en Belgique et on a parlé de chien, mois de décembre.
Resituez-moi.
Si, vous avez appelé parce que ma fille avait peur des chiens. Et je voulais avoir un chien et Laura avait peur des chiens.
Oui, ça y est, ça me revient. Et puis ce léger accent belge que j'adore me revient aussi.
Voilà.
Vous savez que j'ai un faible pour la Belgique, il est belge.
Oui, absolument. Alors, il ne s'agit plus de chien. D'ailleurs, j'ai abandonné ça parce que maintenant, on a déménagé. Ici, on ne peut pas en avoir.
Ah, comme ça, le problème est réglé.
Oui, bien que l'ironie du sort, c'est que le chien de la concierge, Laura, l'adore.
Ah.
Ben oui. Qui l'a cru, hein ?
Oui, comme quoi, vous voyez. Il suffit d'une rencontre et puis ça change.
Ah oui, elle lui fait un bisou, tout ce que vous voulez.
Ah oui, elle n'a plus aucune retenue.
Non, du tout.
Bon.
Avec ce chien-là, ça marche. Hein, maintenant, je peux plus en avoir. Enfin, je peux pas en avoir. Maintenant, je pourrais avoir un chien guide, mais bon, passons. parce que sinon, ça va nous entraîner où je ne veux pas. Et le but de mon appel n'est pas là. Je voulais parler de la mort.
Oui.
J'ai 59 ans. Ça a l'air d'être une annonce, mais... et de plus en plus, je pense à la mort et ça devient un peu une obsession.
C'est-à-dire, depuis combien de temps vous avez l'impression d'y penser plus
ou... Ça fait depuis le mois de février.
Ah, c'est relativement récent. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, une perte ?
Non, j'avais écouté une certaine série un peu... qui avait... où il y avait beaucoup de morts, et je m'étais dit, finalement, j'en ai bientôt 60, et dans peut-être 10 ou 20 ans, ce sera peut-être mon tour.
C'était quoi cette série ?
Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelait La poupée sanglante, avec Jean-Paul Sénacker, Georges Vaud.
Non, ça ne me dit rien.
1976.
Je me demandais en quoi ça avait pu vous influencer ou vous... Vous réveillez des choses chez vous, mais je ne la connais pas, donc ça, je ne vais pas pouvoir me
battre. Ça vient d'un roman de Gaston Leroux.
D'accord.
Dont on a fait un feuilleton très beau, d'ailleurs, mais bon, voilà. Et il n'a rien de particulièrement mauvais, c'est un feuilleton comme beaucoup d'autres. Hein. Mais bon, toujours est-il que je pense beaucoup à la mort, et pour essayer de... Parce que je n'aime pas faire trop de digressions, pour essayer de faire... comme on dit en anglais, a long story short. J'ai été élevé dans... j'ai connu la religion protestante, où on vous dit que lorsque vous mourrez, si vous n'avez pas bien fait ça, vous irez rôtir en enfer.
Oui.
D'autres qui disent qu'il n'y a pas d'enfer. Maintenant, il est bien évident que je ne vous appelle pas pour que vous me confirmiez ou m'infirmiez ce qu'il y a après la mort. Si vous le saviez, je suppose que ce serait connu.
Ça se saurait, exactement.
Ah oui, et vous n'auriez plus le temps de faire cette émission. J'entends beaucoup d'histoires à propos de ce qu'on appelle Near Death Experience. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça correctement ?
Expérience de mort imminente.
Voilà. Qui se recoupe souvent, hein, tunnel, lumière, Mais après, je constate que ce qui vient après va un peu en fonction des croyances des différents intervenants.
Ah oui, parce que chacun se raconte son histoire. Alors, je vais juste résumer en deux mots pour les gens qui n'auraient pas forcément compris de quoi vous parlez. Ce qu'on appelle la near-death experience, c'est-à-dire en anglais, expérience proche de la mort, et donc on traduit ça en français par expérience de mort imminente, c'est ce que racontent les gens qui ont été déclarés en mort clinique et qui sont revenus et qui racontent ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont vu. Et c'est vrai que très souvent, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils n'avaient plus aucune douleur, qu'ils ont vu, par exemple, après un accident de la route, ils ont vu leur corps depuis au-dessus, ils ont entendu ce qu'ils se disaient, et puis ils ont eu l'impression d'être aspirés par une grande lumière blanche, où ils ont retrouvé des gens qu'ils aimaient, qui étaient décédés avant. Et certains racontent qu'on leur a donné un peu comme le choix de revenir ou de ne pas revenir. Voilà, si je résume, c'est un peu souvent ça qu'on raconte dans les expériences de mort imminente.
Absolument.
Après, là où je vous rejoins, c'est que chacun l'interprète en fonction de ses croyances et que les histoires diffèrent forcément. Alors, ceux qui sont totalement hermétiques à ça disent que c'est la chimie des médicaments qu'on nous injecte au moment d'un accident ou au moment d'une opération qui peut créer ça dans le cerveau. Ça, c'est le grand argument avancé. Donc je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. C'est vrai que c'est...
Non,
quand on l'a pas vécu soi-même, c'est très compliqué de se faire une idée.
Alors écoutez, depuis l'âge de 5 ans, c'est parce que je me rappelle, j'étais à la Côte d'Azur avec mes parents, j'avais 5 ans, 6 ans, peut-être dans 5 ans. Et j'entendais à la radio des gens qui avaient été noyés, des choses comme ça. Et je n'ai jamais pu, je n'avais pas encore de croyance à l'époque, mais je n'ai jamais pu admettre qu'il n'y ait rien. Mm-hmm. Je n'ai jamais pu... mon intellect n'a jamais pu admettre que finalement, que c'était le néant, qu'il n'y avait plus rien. Sous quelle forme, je n'en sais rien, mais je n'ai jamais pu admettre que c'était le néant. Après, bien sûr, selon la manière dont on est élevé, on nous enseigne telle ou telle chose, mais certaines sont effrayantes, n'est-ce pas ? Et quand vous vieillissez, vous vous dites finalement, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, je sais bien que vous ne pourrez pas me répondre à ça, parce que ça, comme je vous disais il y a une seconde, si vous le saviez,
Non, après j'ai mes propres croyances là-dessus, j'ai tout ce que les gens me racontent, parce que l'air de rien, ça fait des années que les gens se livrent en toute confiance à moi, et j'entends beaucoup de choses qui sont surprenantes, qui pose question.
Mais oui, j'en ai entendu quelques-unes, notamment un jour de la Toussaint, c'était à vos tout débuts, en semaine en tout cas, en 2018, si ma mémoire est bonne.
C'est possible, oui.
Oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter la Radio Antenne.
Moi, je parlais surtout des gens que je vois en tête à tête à mon cabinet, parce que là, il y a plus d'intimité, donc
vous avez fait une émission à la Toussaint où beaucoup de gens étaient venus vous parler de.
Peut-être. Oui.
De la mort.
Oui.
C'était en novembre 2018.
Mais c'est un sujet qu'on aborde souvent parce que c'est vrai que je suis très à l'aise avec ce sujet-là, on va dire.
Et alors, écoutez, le temps passe. N'est-ce pas, 60 ans arrivent. Le problème, c'est que certains n'y pensent pas. Ils se disent, de toute façon, on va tous mourir, c'est vrai. Hein, on va tous mourir.
C'est le propre de la vie.
C'est le propre, oui. Seulement, moi, ça devient un peu obsessionnel. La crainte de la mort. Enfin, la crainte de la mort. Plutôt la crainte de la manière de mourir.
Ah, ça, c'est autre chose.
Et que mourir...
Oui.
Mourir, on va tous y passer. Vous, moi...
Bien sûr.
Ça, on va tous y aller. Mais quand... On n'en sait rien, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être, j'espère, le plus tard possible. Mmh.
C'est le comment qui vous angoisse, alors, c'est ça ?
C'est le comment et c'est le fait que le temps devient court.
Ah, c'est comme une pelote de laine. En plus, plus on arrive à la fin, plus ça se déroule vite. Hein.
Oui, en effet.
Ça, on m'avait prévenu et je le vérifie chaque jour maintenant.
Pardon ?
J'ai dit, on m'avait prévenu. Que plus on vieillissait, plus le temps passait vite. Et ça me faisait rire quand j'avais 20 ans. Et maintenant, je me dis que c'est vrai, ça passe très vite.
Mais quand j'étais enfant, le temps me paraissait incroyablement long. Et au plus on vieillit, au plus une journée, c'est rien du tout.
Exactement. Ça défile à une vitesse incroyable.
Mais oui. Et alors, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression de perdre beaucoup de temps.
C'est-à-dire avec des choses qui ne sont pas essentielles à vos yeux ?
Avec des choses qui devraient être essentielles et qui ne le sont pas. J'en avais discuté avec Sana Blanger il y a 2 ans de ça. Mais enfin, on va pas s'égarer là-dedans parce qu'il s'agit de boulot et ça va nous entraîner loin. Mais bon, je fais un boulot inintéressant et qui me... Bon, voilà. Mm-hmm. Et j'y perds ma journée. Heureusement que j'ai encore la musique.
Et vous jouez ou vous écoutez la musique ?
Je joue de la musique.
Vous jouez de quoi ?
Alors, je commence. Accordéon, clarinette, saxophone, guitare, flûte de pan.
Eh ben, dis donc.
Oui, elle m'avait d'ailleurs fortement, très fortement, encouragé à reprendre la musique parce qu'elle m'avait dit, ce qui était tout à fait juste, ce boulot inintéressant, vous ne pouvez pas le changer, ça remplit la marmite. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose que vous aimez.
C'est compenser. Quand il y a un moins, quelque part, on compense par un plus, de l'autre côté.
Voilà.
Rééquilibrer.
Je l'ai rappelé, d'ailleurs, le 1er mai, pour lui dire que ses conseils avaient été particulièrement judicieux, puisque j'avais repris la musique. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Mais tant mieux.
Si, si. Donc, voilà, pour ça, là, si elle m'écoute, je l'embrasse.
Moi aussi.
Et donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je perds beaucoup de temps au bureau parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai des enfants en bas âge, même à cet âge-là. Je suis un peu comme Sarkozy, je les ai eus sur le tard.
Mmh. Donc, est-ce que ça ne peut pas jouer, justement, ça ?
Si.
Oui, parce que quand on a des enfants tard, eux-mêmes, d'ailleurs, quelquefois, expriment cette angoisse, avec, selon leur âge, avec des mots différents, d'avoir des parents qui sont plus vieux que les autres à la sortie de l'école, par exemple. Et ça nous
non,
met face à ça.
Non, ça ne le fait pas, mais... Ça ne le fait pas, hein, parce que quand je lui ai dit, par exemple, on parlait de mon anniversaire, alors je faisais un peu le clown. Oh, 59 ans. Oh, mais tu n'es pas vieux, papa.
Bah, tout parce
que vieux pour elle, c'est.
Oui, mais tout dépend de l'âge qu'ont les parents de ses amis. C'est souvent la comparaison qui peut déclencher quelque chose.
Voilà.
Peur,
voilà.
Oui, oui.
Mais bon, avec elle, je ne parle pas trop de la mort, parce que c'est un sujet qui la préoccupe beaucoup. Pas par rapport à moi, mais. On parle souvent quand même.
Elle a quel âge ?
6 ans.
Ah, 6 ans ? Eh oui, c'est
mais il y a deux, ouais. Il y a 2 ans, attendez, non, il y a plus d'un an, elle parlait de la mort. Elle me disait un jour, « Ah, oh, mais quand on me mettra, quand je vais mourir, on me mettra dans la terre et je vais pourrir. »
Ouh, mais ça, c'est un truc qu'elle a entendu quelque part, ça.
Oui, sans doute, oui, oui, bien sûr. Alors, une fois, elle apostrophe une dame qui avait 60, enfin, pas apostrophe, pas, elle lui parlait, « Tu as quel âge ?» 60 ans, et tu vas bientôt mourir.
Oui. Et oui, les enfants sont d'un naturel total par rapport à ça. Ils n'ont pas de filtre.
Ah oui. Donc,
qu'est-ce que vous lui avez répondu quand elle vous a dit « on va me mettre dans la terre et je vais pourrir »
D'abord, je suis resté interloqué pendant quelques secondes.
Mais j'imagine, oui.
Parce qu'elle m'a sorti ça à brûle pour point, sans aucun préambule. Et je lui dis non, ça ne se passe pas exactement comme ça. Ton corps, oui, le reste, non.
Moi, j'explique souvent aux enfants que c'est comme l'amour. L'amour est quelque chose qu'on ne voit pas. Et si on aime très fort quelqu'un qui part en voyage à l'autre bout du monde pendant un an, on l'aime très fort, mais la personne n'est plus là. Et bien, je leur dis, la mort, c'est pareil. L'amour est toujours là. Mais la personne, tu ne la vois plus.
Mais ce qui arrive surtout, c'est que ma maman est décédée en 2015. Pour en revenir à mon sujet,
oui.
Ma maman est décédée en 2015. Et je pense que c'est un petit peu ça qui a déclenché cette... je ne sais pas si on peut utiliser le mot obsession, mais cette crainte, disons, en tout cas.
Là, c'est un grand classique, c'est-à-dire que quand, dans le grand cycle de la vie, quand on perd ses parents, on devient les suivants sur la liste. Logiquement,
oui.
bien qu'il n'y ait aucune logique, mais finalement, dans notre cerveau, c'est un peu ça qui se passe. C'est qu'on avance d'un cran.
Malheureusement, oui. Hein.
Et c'est souvent, effectivement, quand on perd un de ses parents ou les deux, qu'on commence à prendre conscience que, de notre finitude et qu'un jour, ça s'arrêtera.
D'autant plus que pendant très longtemps, j'ai fait des rêves récurrents concernant ma maman qui, finalement, n'était pas morte, était malade et ne m'appelait pas.
Mmh.
C'est un sujet que j'avais discuté avec votre consoeur, Caroline.
Ah ben, vous avez parlé avec la Terre entière, vous dites.
Bah oui. Non, pas la terre entière, mais il y a 3 ans de ça. parce que ça me préoccupait beaucoup. Mais vous savez, même les rêves, il y a des rêves prémonitoires. Ce qui m'a toujours permis ou plutôt incité à penser qu'il n'y avait pas que le physique, il y avait aussi du spirituel. Parce qu'il y a des rêves prémonitoires que j'ai faits qui se sont entièrement réalisés. En fait, on ne digresse pas, tout se rattache. Hein.
Et alors justement, le fait d'être plutôt dans cette croyance-là devrait vous apaiser, vous rassurer, non?
Oui, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de votre ancien président, Georges Pompidou.
Moi, j'étais pas bien vieille, mais oui.
Non, moi, je me rappelle très bien quand il est mort. J'avais 11 ans, j'ai entendu ça sur RTL à l'époque. À une époque où on ne pouvait pas écouter la radio, j'étais à l'internat, à 10h du soir. Et on nous avait annoncé sa mort. Et depuis, il avait dit un jour, il était pourtant très croyant, et il avait dit « Je suis hanté par le doute ».
Mais oui. Mais ça, je pense qu'il y a un moment donné où plus on approche de ce moment-là, plus effectivement on est hanté par ce doute et on a envie de savoir, finalement, comme tout le monde, c'est humain.
Mais oui.
Mais alors, vous qui êtes en Belgique, j'aimerais quand même vous faire savoir quelque chose d'intéressant. Vous avez moyen de vous servir d'Internet quand même? En vocal, j'imagine. Allez sur le site,
oui, hein.
Allez sur le site qui s'appelle deuil-conscience.com. Parce que tous les ans, des scientifiques de renom se rassemblent pour parler des connaissances actuelles sur la vie après la mort. L'an dernier, c'était à l'Université de Liège. Je sais que ça se prépare cette année, je ne sais pas où exactement, mais c'est en Belgique. Et c'est vraiment passionnant. Et vous avez accès sur le site, de toute façon, donc deuil-conscience.com, tout ça au singulier. Sur le site, vous avez accès à beaucoup de vidéos qui ont été enregistrées pendant ces conférences et pendant ces journées-là.
Ah, je vais y aller, ça y est.
C'est vraiment intéressant et c'est animé par des gens passionnants. Ce ne sont pas des huluberlus, si vous voulez, ce sont vraiment des scientifiques,
des médecins, des gens
crédibles.
Oui, parce que j'avais consulté un peu YouTube, mais là vous trouvez...
Ah bah là, oui, il y a de tout.
Il y a de tout, hein, des gens les plus sérieux ou pire charlatans. Hein. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vieux comme le monde, hein, tout le monde, depuis l'hindouisme, en passant par le christianisme, l'islam, tout le monde a un petit peu adapté la mort à sa sauce.
Oui, puis là, il y a plusieurs choses dans votre histoire. Il y a la mort de votre maman qui fait qu'effectivement, vous avez avancé d'un cran. Et puis, je pense qu'aussi, dans l'inconscient collectif, cette histoire de Covid, depuis plus d'un an et demi, presque deux, nous a tous mis face à ça. On avait, je pense, un petit peu tendance à oublier à quel point la vie était fragile.
Ça aussi.
Et on a tous pris ça de plein fouet. Et beaucoup de gens se mettent à réfléchir et à parler de la mort maintenant par rapport à avant.
Oui, parce qu'on est vite parti, en fait. Hein.
Eh oui.
Hier, quelqu'un devait venir me voir. En venant me voir, il a eu un accident de moto. Il n'en est pas mort, mais il aurait pu.
C'est pour ça que les gens qui sont dans le contrôle, je leur dis souvent, arrêtez de vouloir contrôler le futur, parce que le futur, personne ne sait comment il va se passer. Le contrôle n'est qu'une illusion du mental. On ne contrôle rien dans cette vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est gérer au mieux ce qui nous arrive au moment présent. Et c'est déjà beaucoup.
Ben oui, et c'est pas toujours évident. Hein, et c'est vrai que tout le monde, et surtout quand les choses vont mal, a tendance à vouloir savoir ce qui va se passer dans le futur. Hein. D'ailleurs, l'histoire est pleine de gens qui se rendent chez les voyants et autres... charlatans ou pas charlatans, mais oui, les médiums, oui. Bon, oui. J'avais été très fan de ce genre de pratique, mais bon.
Il y a deux citations qui me viennent à l'esprit que j'aime beaucoup. La première qui dit « La mort n'est pas la pire des choses. La pire des choses, c'est ce qui meurt en nous quand on est encore en vie. »
Oui, c'est possible.
Moi, ça me fait plus peur que la mort, vous voyez.
Ben en fait, la mort en soi, on va tous y passer. Ça c'est une chose qui est certaine. Ça, on ne peut pas y couper. La seule différence avec celui qui a un cancer et qui est terminal, c'est qu'il en applique pour quelques mois, c'est que nous, on suppose que ce sera à plus ou moins long terme. Mais c'est la seule différence. Mais on va tous y passer, ça c'est sûr. Maintenant, je n'arrive pas à positiver la chose. Disons ça comme ça. je n'arrive plus à positiver la chose. Avant, ça me... Bah, je me disais, bah oui, comme tout le monde, on va mourir, on va mourir. Mais plus le temps passe et plus je me dis, oui...
Et oui, plus ça se concrétise.
Voilà.
Oui.
Et ça devient un peu déprimant.
Mais la deuxième citation à laquelle je pense, elle est très très mignonne, c'est Snoopy et Charlie Brown, ça vous dit quelque chose ?
Les deux noms, oui, mais...
La petite BD qui nous accompagnait quand on était petits, parce qu'on est de la même génération. Et il y a un dessin où il y a Snoopy qui dit... il y en a Charlie Brown qui dit à Snoopy, « Un jour, on va mourir, tu sais. » Et l'autre lui répond, « Oui, mais tous les autres jours, on va vivre. » Elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est tellement vraie.
Mais c'est fou ce que le spirituel peut faire. Hein. Une fois, je me suis retrouvé à Pearl Harbor, figurez-vous. Je vous dis ça parce que ça n'a vraiment rien de... c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Il y avait deux enfants que j'ai sauvés d'un mitraillage en le faisant. Alors je leur ai dit, j'étais venu pour prévenir de l'attaque, mais je suis arrivé trop tard. Et puis j'ai disparu. Ça reste bizarre, hein?
J'ai pas compris ce que vous m'avez raconté, Jean-François.
Je suis arrivé dans le rêve au moment où les avions mitraillaient.
Ah.
Il y avait là deux enfants sur un balcon, les avions arrivaient, je les ai jetés par terre en même temps que moi. Donc il ne s'est rien passé, personne n'a été touché. Et alors je leur ai dit, j'étais venu pour prévenir de l'attaque, mais je suis arrivé trop tard. Et puis j'ai disparu. Enfin, je suis reparti, je me suis réveillé.
Oui, alors je sais que régulièrement on me parle des rêves, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Je vous avoue que je...
Non, mais je veux dire, il y a certainement des significations à ça.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand les gens nous racontent, par exemple, avoir eu la sensation en pleine nuit que quelqu'un de proche passait leur dire au revoir, leur mère, leur grand-mère, et que le matin, ils ont appris son décès, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on raconte souvent. Quelqu'un qui dit, j'ai ouvert les yeux à 3h du matin, j'ai eu l'impression que ma grand-mère passait me dire au revoir, et j'ai appris en me réveillant le matin qu'elle était morte pendant la nuit, vous voyez.
Mais moi, j'ai rêvé de mon beau-frère qui est mort pendant cette nuit.
Mais ça, c'est autre chose. Rêver de la mort de quelqu'un, c'est pas forcément, ça ne signifie pas forcément qu'il est mort.
Non, je n'ai pas rêvé de sa mort. J'ai rêvé de lui. Et il est mort depuis très longtemps.
Ah oui, d'accord. Ça, c'est après. Rêver de nos défunts.
Comme il m'arrive très souvent de rêver de mon père, de ma mère, de ma sœur, des gens qui ont disparu.
Oui, mais ça, c'est comme tout le monde, j'imagine.
Oui, seulement quand vous vous réveillez...
Il y a un moment de flottement. Hein.
Oui. Après vous vous réveillez, vous dites attends, c'était pas vrai, ils n'étaient pas là.
Alors ça dépend des croyances aussi. Certains pensent que c'est comme ça qu'ils viennent nous voir.
Alors je ne sais pas comment. Je voudrais bien simplement si vous voulez renverser la vapeur, je ne peux pas malheureusement. On va tous par là. Mais au moins vivre ce qui me reste à vivre en n'étant pas hanté par cette crainte.
Alors est-ce que vous avez en livre audio des livres justement qui concernent la mort ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses magnifiques.
Il existe beaucoup de livres audio, mais je n'en ai pas connaissance sur la mort.
Alors moi j'en cite souvent énormément. Et là on a quelqu'un qui n'a pas signé, qui envoie un SMS en disant « Les livres de Patricia Daré sont d'une grande richesse concernant certains aspects de l'au-delà ». Moi, je conseille toujours les livres d'Elisabeth Kubler-Ross, notamment « La mort est un nouveau soleil » ou alors « Avant de se dire au revoir ». Tout ça, ce sont des livres qui sont extrêmement intéressants et apaisants.
Mais je vais googler, comme on dit.
Googler. Et puis surtout, vraiment, si vous êtes en Belgique, si vous avez cette chance-là, allez sur ce site deuil-conscience.com et regardez le prochain le forum qui va s'organiser. J'ai pas les dates en tête, j'ai vu passer ça rapidement aujourd'hui, mais c'est imminent, le prochain forum. Et déjà, ce qui est en ligne sur le site, ça vous apporte plein d'informations. Beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup de conseils, beaucoup de vidéos, beaucoup de livres. Donc tout ça, ça va être riche déjà pour vous répondre, mais ça me paraît complètement logique ce cheminement, je vous dis, entre la perte de votre maman le fait que vous avez donc avancé d'un cran sur la ligne, le suivant, et puis ce Covid qui, quand même, nous, depuis 2 ans, nous met face à la mort quotidiennement. Vous vous rendez compte que pendant des mois et des mois, tous les jours, on avait un décompte des morts?
Ah, ici aussi, hein.
Chez vous aussi, c'était ça, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, ça, avant.
On n'a pas connu ça, et enfin, maintenant, ça s'est calmé.
Heureusement. Heureusement,
bon, du moins, on ne nous en parle plus beaucoup, mais...
C'était extrêmement anxiogène.
Absolument.
Notamment pour maintenant, les plus jeunes, surtout pour les plus jeunes, d'ailleurs, qui n'ont les ados, les jeunes adultes, qui n'ont absolument pas été confrontés à des soucis de mort de près ou de loin. D'un seul coup, on les a mis dans un monde où on décompte les morts tous les jours. C'est monstrueux, c'était horrible à vivre.
Et au début, tout le monde en rigolait, hein, de ce Covid, hein, quand ça a commencé.
Rigolait peut-être pas,
mais tout le monde prenait ça pour une bête grippe.
Personne n'aurait imaginé les conséquences, évidemment.
Non, mais tout le monde rigolait. Ça n'arrivera jamais chez nous. J'entendais ça au bureau quotidiennement. Tout le monde en riait un peu. Et puis après, un mois après, on était confinés.
Mais vous voyez, vous me disiez, j'arrive pas à trouver le côté négatif, le côté positif. Eh ben, le côté positif du Covid, par exemple, c'est que beaucoup de gens ont remis leur vie en question et se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les bonnes priorités. Beaucoup de gens ont quitté les grandes villes, se sont rendus compte que les enfants, les conjoints, c'est important. Prendre le temps de vivre ce qu'on aime, c'est important. Et ont changé de vie. Et pour vous, ce qui est important, c'est que cette prise de conscience vous permette justement de profiter mieux de chaque journée.
Mmh.
D'être vraiment dans le présent et d'être capable, d'être reconnaissant d'être dans le présent. Je ne suis ni hier ni demain, je suis là maintenant tout de suite et reconnaissant pour chaque chouette moment que je passe au présent. Parce qu'on le vit plus intensément ce moment-là et du coup le temps passe moins vite. Si on accorde plus d'attention au présent. Ce qui fait que le temps passe vite, c'est que soit on cogite sur le passé, soit on anticipe l'avenir. Et donc on passe complètement à côté de ce qui se passe au présent. Et la journée se termine, la semaine se termine, et le mois est fini, et l'année est passée, on se dit « mais j'ai rien vu passer ». On ne pense pas assez à se poser pour accueillir le présent.
Oui, oui. Oui, et quand on... C'est... Bon, c'est vrai que... Bon, je crois que tout le monde, je cherche un peu mes mots parce que j'essaye de bien le dire, tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, est confronté à une certaine crainte de la mort. Bon. Parce que je ne suis pas dans l'esprit des autres personnes, donc ben je suppose.
Mm-hmm.
Le tout est de savoir comment on le vit. Parce que... Mes grands-parents ne me parlaient pas de mourir de cette façon-là. Ils étaient gays. Ils sont morts assez vieux, d'ailleurs, je dois dire. Passé 80, donc voilà. Maintenant, je peux très bien mourir demain. Ou...
Maintenant, si vraiment c'est une source d'angoisse, Jean-François, moi je vous conseille d'aller faire une thérapie et je vous conseille l'hypnose pour ça. Parce qu'on peut, sous hypnose, appréhender sa propre mort. On peut se passer... Parce que notre cerveau, ce qu'il craint le plus, c'est ce qu'il ne connaît pas.
Ah oui,
et ça peut paraître curieux, mais on peut, sous hypnose, faire des séances où on vit ça. Voilà, on se voit partir et on s'imagine des scénarios et on s'apaise.
Ça devient au point que j'ai peur d'aller en avion maintenant.
Oui, donc là, je pense que vous auriez besoin de l'aide d'un thérapeute si ça vire à une phobie à ce point-là.
Ben, ce n'est pas excessif, mais je veux dire que c'est souvent furtif. Je ne refuse pas d'aller dans l'avion, mais...
Il y a des peurs qui remontent, oui.
Il y a quand même, à certains moments, des craintes, surtout si vous avez entendu, un petit peu avant d'y aller, quelques émissions sur des crashs.
Ah, mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est le vocabulaire employé dans un aéroport. C'est-à-dire que vous arrivez déjà dans un terminal. La première chose qu'on vous donne, c'est des consignes de sécurité en cas d'accident.
Ah oui.
Quand vous êtes en salle d'attente, on vous dit « c'est un dernier appel ». Et l'air de rien, pour l'inconscient, il y a plein de mots comme ça qui sont épouvantables dans un aéroport.
Je me souviens, j'étais aux Philippines, je suis rentré, et l'hôtesse, enfin c'était une vidéo... In the unlikely event of a water landing, donc dans le cas improbable de l'atterrissage dans l'eau.
Et oui, le problème, c'est que vous savez que notre cerveau ne comprend pas la négation. Je l'ai dit 1000 fois. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant bleu, vous avez cette image-là. Donc quand on vous dit En cas de crash aérien qui n'arrivera pas, la première image mentale que vous vous créez, c'est le crash aérien, bien évidemment.
Bien sûr.
Et c'est pas le qui n'arrivera pas. Eh oui.
Et j'ai pensé beaucoup à la mort quand j'ai lu des bouquins sur notamment les Bermudes.
Et pourquoi ça ?
Surtout à cause de cette histoire des 5 avions qui avaient disparu.
C'est de ne pas savoir, en fait, qui vous fait plus peur, j'ai l'impression.
Comment ?
C'est de ne pas savoir, de ne pas arriver à comprendre. Parce que le triangle des Bermudes, c'est surtout la grande interrogation, c'est qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi.
Bah, dans le cas des 5 avions, maintenant, on le sait, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Cracher, et il m'est même arrivé d'en rêver, c'est épouvantable. Alors, j'ose plus lire des trucs comme ça. Parce que... En plus, quand vous êtes non-voyant, vous imaginez des choses qui ne sont peut-être pas exactement ce qu'elles devraient. Un jour, j'étais en train de nager, j'étais au milieu d'une piscine, et je me suis rappelé du gars qui n'avait plus de boussole au-dessus de l'océan. Là, j'ai perdu tous mes moyens.
Ah, vous voulez dire qu'il y a des moments de panique comme ça dans votre cerveau ?
Oui, parce qu'au Bermude, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait perdu son orientation. Il était au-dessus de la mer. Après, toutes ces décisions ont été influencées par ça. Bon, je passe parce que sinon, ça va nous entraîner bien trop loin. Mais il y a eu cette sensation de ce que les aviateurs appellent le vertigo. Et il s'est retrouvé comme ça au-dessus de l'océan. Lui et ses pilotes qui ont dû le suivre. Et voilà. Alors, quand vous êtes au milieu de l'eau, que vous ne savez pas où vous êtes, et ça m'a rappelé cette histoire, alors je vous assure que j'ai perdu tous mes moyens. J'ai absolument demandé qu'on vienne me donner un coup de main pour retrouver l'autre bord.
Oui, je pense que ça serait bien que vous vous fassiez aider un petit peu en ce moment avec ça. Il y a quelqu'un qui m'envoie un petit message et qui dit « Sabine, pourriez-vous mettre sur votre page Facebook les liens dont vous avez parlé ? Je ne l'ai pas tout compris. » Effectivement, sur ma page Facebook Sabine Marin Public, j'ai déjà mis plusieurs livres de référence sur le thème de la mort. Et effectivement, demain, je mettrai tout ce dont j'ai parlé ce soir avec vous, et notamment ce lien vers le forum et ce qui se prépare en Belgique. Là, sur le...
Ah, mais ça, je vais y aller voir. Hein. Je ne vais pas dire maintenant, parce que je vais aller dormir. Mais je vais quand même aller voir ce qui s'y trouve. Oui, absolument.
Et pour tous ceux qui n'auraient pas eu le temps de le noter, je mettrai tout ça sur ma page demain. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est expliqué par des gens passionnants.
Maintenant, je vous parlais des Bermudes et d'autres petites choses comme ça. C'était pour vous donner un peu une idée d'ensemble. Hein. Parce que parfois, les petites choses se regroupent.
Oui, mais ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a, il y a un fond d'angoisse et que peut-être ça vaut le coup de vous faire aider.
Oui, non, ça, je ne dis pas le contraire.
De la laisser s'exprimer, de ne pas ruminer ça en gardant ça à l'intérieur, même si j'ai bien compris que vous en parlez régulièrement sur différentes émissions. Mais ce n'est pas pareil qu'une thérapie. Allez, extérioriser ça. Oser sortir tout ça.
Oui, vous faites allusion aux rêves récurrents. Oui. Ben, ça a disparu, ça, heureusement. Heureusement. Enfin, on en a discuté. Mais c'est vrai que peut-être l'hypnose, oui.
Ah, c'est une douce façon d'appréhender ce moment-là, ce passage-là.
Parce qu'en plus, il faut avoir un thérapeute qui ne soit pas fermé aux choses, entre guillemets, spirituelles. Parce que vous en avez qui sont absolument hermétiques à ce genre de choses.
Alors, je vous conseille de trouver un hypnothérapeute qui pratique ce qu'on appelle l'hypnose humaniste.
Oui.
L'hypnose humaniste, c'est une forme d'hypnose qui est très ouverte à la spiritualité.
Voilà, parce qu'il y en a qui sont non seulement athées, bon, ça c'est leur droit, mais qui sont cantonnés là-dedans et qui tout ce qui est spirituel, ils sont tous fermés à tout ce qui est spirituel. J'en ai connu. Hein.
Oui, bien sûr, mais il vous faut trouver un thérapeute qui vous accompagne sur votre terrain, dans vos croyances et dans ce qui peut vous faire du bien et puis de... Pourquoi pas, effectivement, de laisser les choses se faire en douceur et de laisser... Pendant une séance, votre inconscient a accepté les choses. Vous amenez tout doucement vers ce qui pourra un jour arriver. Mais est-ce que votre propre mort vous fait plus peur que la mort des autres ou c'est l'inverse ? Parce que souvent, les gens me disent « Moi, j'ai plus peur de la mort des gens que j'aime que de la mienne.
Oh, » Je crois que c'est égal. Hein. En fait, ce n'est pas ma propre mort. Parce que, pour être exact, ce n'est pas la mort qui me fait peur. C'est la manière dont je vais mourir.
Oui, ça, je crois que c'est très humain. On a tous peur de souffrir. On aimerait tous mourir dans notre sommeil sans être prévenus et sans souffrir, hein, je crois.
Oui.
Ben oui. C'est humain. Personne n'a envie de se dire je vais me faire écraser par un camion, je vais souffrir le martyr. Bien que les gens qui ont vécu ça, et justement en expérience de mort imminente, et qui reviennent le raconter, disent qu'ils n'ont pas souffert. Parce que instantanément, quelque chose s'arrête. La conscience reste, mais la douleur disparaît. En tout cas, dans les témoignages qui reviennent souvent de ça.
Mmh.
C'est assez surprenant, ça aussi. Nous, on a l'impression que c'est absolument épouvantable. Et eux disent que c'est quand ils se reviennent dans leur corps que la douleur revient, mais que pendant ce laps de temps-là, ils n'ont rien senti.
Ben oui.
Mais de toute façon, c'est un sujet passionnant sur lequel il y aurait tellement de choses à dire. Il y a tellement de...
On y passerait des années hein, là-dessus. Hein,
tellement de croyances différentes, tellement de preuves ou pas. C'est toujours pareil. Hein. Ceux qui les avancent en sont certains. Ceux qui n'y croient pas sont aussi certains.
Toutes les croyances ont quand même un dénominateur commun. Hein.
C'est-à-dire ?
Un être supérieur.
Ah oui, la lumière, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui.
Oui. Oui. Même l'hindouisme, hein, puisque le livre des hindous a été écrit 300 ans avant Moïse. Donc on y parlait déjà du cosmos. Donc c'est dire que toutes les civilisations ont en commun cette quête de spiritualité de toute façon.
Oui. Moi, je n'ai jamais eu la chance de discuter en direct avec quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses. Surtout, notamment, les infirmières, et dont Elisabeth Kübler-Ross, qui a accompagné des gens au moment du départ, et qui raconte qu'il y a comme quelque chose que l'on sent, que l'on voit pratiquement. Quand l'âme s'en va.
Oui, c'est ça.
Et moi, j'aimerais beaucoup le vivre. Je n'ai pas eu la chance de vivre ça avec un être humain. Et pour être tout à fait franche, je l'ai vécu une fois avec ma chienne. J'ai une chienne qui est morte dans mes bras. Et au moment où elle est partie, il s'est passé quelque chose que je ne saurais pas décrire. Mais il s'est vraiment passé quelque chose. Comme si quelque chose était sorti d'elle, m'avait enveloppée et était montée vers le ciel juste après.
Ah mais les animaux ont une âme. Hein.
Et donc ça, je sais que je l'ai vécu. Donc je ne suis pas folle, je n'étais pas sous médicaments, personne ne me l'a raconté. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec un sentiment d'apaisement total alors que j'étais ravagée de chagrin. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Ça, j'en suis absolument certaine.
Ah non, mais les animaux ont une âme. Hein. C'est une absolue.
Ça, j'en suis sûre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens qui ont vécu ça avec un être humain et pas un animal parlent aussi d'un espèce de moment de grâce au moment du départ, qui n'est pas tout aussi violent qu'on peut le craindre. Et c'est pour ça que l'hypnose est intéressante, c'est qu'au lieu de se faire des scénarios catastrophes en imaginant des souffrances, des angoisses, des choses comme ça, on se crée des scénarios paisibles pour apaiser notre cerveau, calmer nos peurs.
Oui, parce qu'en fait, tout le problème est là. Hein. C'est le cerveau
qui... C'est ce qu'on se raconte à nous-mêmes qui nous fait peur, bien sûr.
Oui, c'est plutôt ça. Hein. Mmh. Je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que le tout serait de pouvoir... positiver, si toutefois c'est possible, ce genre de choses.
Oui, avec l'hypnose, justement, ça me paraît un très bon outil pour se créer des scénarios beaucoup plus apaisants et apaisés.
Maintenant, il faut dire que, je pense que c'est vous qui avez dit ça un jour, que le cerveau emmagasine tout ce qui... toutes les étapes de notre existence, et bien, tous les enseignements que j'ai reçus, tantôt à droite, tantôt à gauche. Sont restés et ont probablement accumulé parfois des bonnes choses, parfois de moins bonnes choses.
C'est ce qui fait ce que nous sommes.
Voilà,
La somme de tout ce que nous avons vécu depuis la conception jusqu'à aujourd'hui, ça fait ce qu'on devient physiquement, moralement, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement. Ça nous fait.
Voilà. Alors faire le tri, parfois, c'est un peu difficile.
Notamment, surtout parce que 85% de ça est inconscient.
Bien sûr.
Donc aller faire le tri dans ce à quoi vous n'avez pas conscience, c'est vrai que c'est compliqué.
Mais bon, maintenant, attention, je ne dis pas que je pense à ça 24 heures sur 24, hein. ce n'est pas ça, c'est pas quand même pas ce point-là. Mais disons que si je pouvais y penser un peu moins, ce serait mieux.
Oui, je vous dis, Jean-François, il n'y a rien qui me surprend dans ce que vous me dites. D'abord, la période s'y prête beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se mettent à parler de la mort qui n'en parlaient pas avant. Et parce qu'on a été plongé dedans de manière très brutale avec ce Covid. Il y a tout ce qu'on s'est dit là, mais vraiment, je pense que ça vous ferait beaucoup de bien d'aller vous apaiser avec quelques séances d'hypnose pour ça. Et puis surtout, ce site et ce forum, si vous avez l'occasion en plus d'y aller, puisque vous avez la chance que ça se passe en Belgique, d'entendre des gens passionnants parler de tout ça, c'est très enrichissant. Et ne serait-ce que sur leur site, il y a beaucoup de vidéos, des forums de l'an dernier, par exemple, de témoignages. Mm-hmm. Et c'est enrichissant. Et je pense que plus on nourrit notre cerveau de tout ça, moins on a peur.
Oui, forcément. Parce que c'est un peu comme une programmation, hein.
Oui, c'est ce que je vous disais. Notre cerveau ne comprend pas cette négation. Donc, si vous me dites je veux avoir moins peur, c'est pas une bonne idée non plus. Je veux me libérer de ça. Je veux m'alléger par rapport à ça déjà. C'est vous programmer déjà de manière positive. Ne plus focaliser sur tout ce qui vous fait peur, mais focaliser sur tout ce qui vous donne de l'espoir.
Mmh, mmh.
Parce qu'en plus, vous avez cette connexion spirituelle qui vous permet d'avoir cette ouverture.
Oui, oui. Non, je vais aller consulter, en tout cas, d'abord, ce site.
Ouais, je suis persuadée que ça va vous apporter beaucoup.
Oui, oui. Et après, oui, comme je disais, c'est un moment... maintenant, c'est peut-être un mauvais moment qui va passer. Mais je vais aller quand même écouter...
Et puis garder ma petite citation de Snoopy. Un jour, on va mourir, mais tous les autres jours, on va vivre. Et ça sera le mot de la fin.
C'est ça.
D'accord, Jean-François?
Parfait.
Je vous embrasse.
Merci, moi aussi.
Et profitez de chaque minute déjà.
Ok.
À bientôt.
Au revoir, Sabine.
Au revoir, Jean-François.